Con una familia numerosa de criadores de ciervos, inaugurado en Brest el Consulado General de Kazajistán. Belarus y Tayikistán acordaron una mayor cooperación económica y comercial, más dispuesta a ampliar la cooperación con Nicaragua. Ahora, sobre estos y otros temas en detalles, primero tocaremos los temas oficiales. Los presidentes de Belarus y Rusia, Alexander Lukashenko y Vladimir Putin, hablaron por teléfono con una familia numerosa de criadores de ciervos durante una reunión en el Kremlin. La familia numerosa PYAK son pastores de renos hereditarios que viven en una tundra de Yamal. Yenksia y Zoya PYAK celebran 500 años de vida en común. Los presidentes les felicitaron por sus bodas de oro. Los cosmonautas Marina Vasilevskaya y Oleg Novitsky también asistieron en la acto. Tenemos invitados la primera mujer cosmonauta de Belarus y el presidente de Belarus, y es un día festivo, el 12 de abril, Día de la Cosmonáutica. Les felicitamos todos juntos por sus bodas de oro y a toda su familia grande. Les deseamos lo mejor y mucho éxito. Espero que nos veamos. Sé que uno de sus nietos quiere ver el lanzamiento de una nave espacial. Sin duda, organizaremos un viaje para su nieto, prometió Vladimir Putin, cediendo la palabra a su colega belaruso. También me uno a las felicitaciones del presidente de Rusia. Son bodas de oro. 50 años es una rareza. Es una buena ocasión, dijo Alexander Lukashenko. También expresó la seguridad de que los cosmonautas invitarán a su familia a ver el fenómeno más hermoso, el lanzamiento de la nave espacial. Agradezco a Vladimir Putin la invitación a esta conversación. Para mí es muy simbólico e importante hablar con personas que están lejos y se dedican a este negocio tan bueno y brillante, la cría de ciervos. Felicidades y salud a ustedes y a sus hijos. Que vivan ustedes y especialmente sus hijos y nietos y no sientan problemas y que sean criadores de ciervos. Es una profesión poco común. Muchas gracias, éxitos y felicidad, añadió el mandatario belaruso. Los cosmonautas también felicitaron a la familia de criadores de ciervos por su aniversario de boda. Marina Vasilevskaya les deseó salud y todo lo mejor. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, felicitó al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Thong, por su 80º aniversario, dieron a conocer las fuentes de información oficiales del líder belaruso. Sus méritos y logros en el servicio concienzudo a la patria fueron muy apreciados tanto en Vietnam como más allá de sus fronteras, incluida Belarus, cita el mensaje de felicitación. El jefe de Estado expresó la seguridad de que la ulterior expansión de los lazos belaruso-vietnamitas en diversos sectores de la actividad estatal y económica reportaría importantes beneficios a ambos países y pueblos. Recuerdo con cordialidad nuestras conversaciones en Minsk y Hanoi y cuento con encuentros en el futuro. Le invito a visitar de nuevo la hospitalaria Belarus en cualquier momento oportuno, dijo el presidente. Alexander Lukashenko deseó a Nguyen Phu Thong buena salud, energía infinita, felicidad y nuevos éxitos profesionales. El 13 de abril en Brest tuvo lugar una solemne ceremonia de apertura del Consulado General de Kazajistán. El Consulado General está situado en la parte central del centro regional en la calle Krupskoy. Brest abre otro Consulado General. Esto eleva el nivel, el estatus de nuestras relaciones. Demuestra que estamos cumpliendo plenamente, incluso antes de lo previsto, las instrucciones de los presidentes de la República de Belarus y la República de Kazajistán de ampliar intensivamente la cooperación. Hay muchos planes, notó el viceministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Igor Nazaruk. También llamó a las autoridades de la provincia de Brest a cooperar activa y constructivamente en beneficio del fortalecimiento de las relaciones entre Belarus y Kazajistán. El viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Murat Nortleo, subrayó que la apertura del consulado general es un acontecimiento importante. Las relaciones entre los países se desarrollaron con gran gran dinamismo y se abren nuevas perspectivas de cooperación. El canciller Cafajo señaló que los orígenes de la amistad entre nuestros pueblos no solo se encuentran en una historia común, sino que también se entrelazan con los destinos humanos. Murat Nurtleo añadió que la Gran Guerra Patria, durante la cual los belarusos y kazajos lucharon hombro con hombro por la libertad y la independencia, ocupa un lugar especial en el pasado conjunto de nuestros países. Belarus y Kazajistán establecieron una asociación efectiva. Kazajistán trata a Belarus con especial calidez como socio político y económico clave, aliado fiable y amigo íntimo. Recientemente, las relaciones entre Kazajistán y Belarus avanzaron significativamente en el camino de la cooperación mutuamente beneficiosa. El diálogo político de confianza a los niveles más altos y elevados permite resolver todas las cuestiones de forma rápida y positiva, afirmó Murat Nurtleo. El jefe de la Cancillería de Kazajistán subrayó que el ritmo de la cooperación comercial y económica crece año tras año y la cooperación industrial se refuerza. Nuestros países tienen un gran potencial para aumentar el volumen del comercio bilateral, incluso a través de nuevos proyectos de inversión mutuamente beneficiosos. Murat Nurtleo expresó la seguridad de que la labor del Consulado General de Kazajistán en Brest dará un impulso adicional a las relaciones bilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Sergei Alenik, mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Tayikistán, Sirojiddin Mukhlidin, que visitó en Minsk para participar en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la ACEI. Los jefes de los ministerios de Asuntos Exteriores constataron el alto nivel de las relaciones belaruso-tayikas, así como el eficaz sistema de interacción en el marco de las organizaciones multilaterales. Durante las conversaciones se hizo especial hincapié en la intensificación de la cooperación comercial y económica, la cooperación industrial y la interacción humanitaria. Las partes valoraron positivamente la iniciativa taika de construir una casa de comercio multifuncional de Tayikistán en Minsk. Los cancilleres también se refirieron a la organización de la 17ª reunión de la Comisión Intergubernamental Belaruso-Taika de Cooperación Comercial y Económica en Minsk, cuya celebración está prevista en el marco de la exposición internacional especializada Belagro 2024. Sergei Alenik agradeció la participación de la delegación taika de alto nivel en la observación de las elecciones parlamentarias de Belarus, subrayando la importancia de una mayor cooperación fructífera entre los parlamentarios de ambos países. La fábrica de automóviles de Minsk está dispuesta a ampliar la cooperación comercial con Nicaragua, informaron en el servicio de prensa de la planta. Durante una visita oficial en Nicaragua, los representantes de la dirección de la fábrica de automóviles de Minsk mantuvieron conversaciones con la dirección del Ministerio de Transporte y el Ayuntamiento de la ciudad de Managua, capital del país más grande de Centroamérica. El año pasado, como resultado del acuerdo intergubernamental entre los dos países, se realizó la primera entrega de volquetes producidos por la fábrica de automóviles de Minsk a Nicaragua. La parte nicaragüense valoró altamente el enfoque responsable demostrado por la planta belarusa durante la realización de ese proyecto y expresó el deseo de ampliar la cooperación comercial. Para hoy es toda la información. Los materiales de los informativos fueron compuestos a base de los de la Agencia Telegráfica Belta y los materiales propios de Radio Belarus. Para vosotros ha trabajado Nadia Vishnevska. Hasta pronto.
Belarus hoy en día. Resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país en las ondas de Radio Internacional Belarus.
La región de Mogilev. Invitamos a Belarus. La región de Mogilev se encuentra en el este de Belarus y limita con Rusia. Esta región tiene una gloriosa historia. Tales ciudades como Mogilev, Grichev y Mstislavl son conocidas desde los siglos XII-XIII. Como toda la Belarus, la tierra de Mogilev fue el escenario de las batallas crueles. El Mogilev mismo fue destruido casi completamente, pero muchas antigüedades se conservaron aquí hasta nuestros días. Conociendo la ciudad, pueden visitar el castillo del siglo XVI, el monasterio de San Nicolás, la catedral de San Estanislao, donde se puede escuchar la música del órgano y los otros lugares en los que se refleja toda la historia de nuestro país. Hace poco en Mogilev apareció la plaza nueva, la plaza del astrónomo. El científico de bronce dirigió su telescopio de 7 metros al cielo para regalar al mundo los nuevos descubrimientos. Y no es una simple escultura, es el reloj original que ayudará a los ciudadanos siempre a saber la hora exacta. Anualmente Mogilev recibe a dos fiestas de la música, el Festival de Retromúsica Zolotoy Schlager y Magutny Boža, dedicado a los cantos espirituales. Les invitamos a ustedes a la región de Mogilev para obtener el buen humor y las impresiones magníficas. Bienvenidos a Belarus.
Yeah. Estimados oyentes, sus cartas más interesantes se colocan ahora en una sección especial del sitio web de la Radio Internacional Belarus, www.radiobelarus.tvr.by, en adelante la sección buzón de correo. Busquen sus cartas y las respuestas a ellas en nuestro buzón de correo.
El servicio tax-free es una devolución de impuestos para los no residentes de la Unión Económica Euroasiática y un ahorro en compras de hasta un 15%. Al realizar compras de bienes a partir de 80 rublos belarusos, emita un cheque tax-free presentando su pasaporte al empleado de la tienda. Los recibos de efectivo y un sobre especial se adjuntan al cheque tax-free. Al exportar mercancías desde el territorio de la República de Belarus, recibirá una marca de confirmación de exportación en el recibo de tax-free al presentar las mercancías empaquetadas al funcionario de aduanas. Presente los datos necesarios en el cheque, póngalo en un sobre especial en la casilla tax-free y reciba un reembolso en su tarjeta bancaria. O comuníquese con una sucursal de Belarus Bank y reciba un reembolso en efectivo.
Вечер наступил, я ему так рад. Солнце поспешит в закат. Не думай ни о чем, пускай нас встретит ночь, в которой мы с тобой вдвоем. Под дождем, под луной, мы одни с тобой. Ритм осеннего дождя уносит меня, ритм осеннего дождя уносит тебя, там, где ты, там и я, там, где ты, там и я. Ритм осеннего дождя, ритм осеннего дождя уносит меня, ритм осеннего дождя уносит тебя, там, где ты, там и я, там, где ты, там и я. Нас. Я люблю, как первый раз. Знаю, что и ты чувствуешь любовь. Ночь благословит нас вновь. Под дождем, под луной, мы одни с тобой. Осеннего дождя уносит меня, ритм осеннего дождя уносит тебя, там, где ты, там и я, там, где ты, там и я. Ритм осеннего дождя, ритм осеннего дождя уносит меня, ритм осеннего дождя уносит тебя, там, где ты, там и я, там, где ты, там и я.
Западным регионам Беларуси.
Escuchen Radio Belarus.
Свотсво 08-07, Минск, Республика Беларусь. Сегодня у нас особенно... Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возник.
Приезжаешь, они очень тепло
встречаются
беларусов.
Прыгожая поэтичная назва. Найлепшее значение для нашей краины.
C'est la radio Belarus internationale de Minsk.
Des relations internationales et la sécurité, la géopolitique et des intérêts nationaux. Notre vision des problèmes actuels dans le projet Belarus dans la communauté mondiale.
Bonjour chers amis, bienvenue sur les ondes de la radio Belarus qui continue avec les émissions en français. C'est le projet Belarus dans la communauté mondiale. La Lituanie a fermé deux autres postes frontaliers avec le Belarus. Seuls deux postes de contrôle restent ouverts, Mezininkai Kamenny Log et Chalchininkai Beniakoni. Cependant, à partir du 1er mars, les passages frontaliers à vélo et à pied ont été annulés ici. Le Comité national des frontières du Belarus note que la direction lituanienne reste la plus fréquentée par les camions à la frontière entre le Belarus et l'Union européenne. Le Comité national des frontières du Belarus considère la décision de la Lituanie comme une création délibérée d'obstacles au franchissement de la frontière par les transporteurs de marchandises et les citoyens privés. Les conducteurs expriment depuis longtemps leur mécontentement face à la situation actuelle, mais qu'en porte ? Le politologue Nikolai Makariev explique la situation.
Цель официального Вильнюса ясна. Это давление на официальный Минск со всеми вытекающими. Это попытка изменить отношение наших граждан к официальному.
L'objectif officiel de Vilnius est clair. Il s'agit d'une pression exercée sur Minsk avec toutes ses conséquences. Il s'agit d'une tentative de changer l'attitude de nos citoyens envers le Minsk officiel, nos autorités, afin de déséquilibrer la situation stable existante dans notre État. En effet, ce problème provoque aujourd'hui l'effondrement des infrastructures. Il ne reste déjà que deux postes frontaliers, quoique importants, Beniakoni et Kamenny Log. Néanmoins, une situation plutôt tendue se développe. Je voudrais noter le suivant. Selon Frontex, l'agence de l'Union européenne pour la sécurité des frontières extérieures, 224 000 migrants illégaux sont entrés en Europe occidentale depuis l'Asie occidentale et le Moyen-Orient en 2022 et 343 000 migrants illégaux en 2023. Combien d'entre eux ont franchi la frontière biélorusse? Littéralement quelques centaines. Mais la propagande officielle de l'Occident tente de semer le trouble dans les régions de Grodno et de Minsk et dans notre État dans son ensemble. Leurs actions sont donc totalement infondées. Ils ont une législation en vigueur et il existe un algorithme sur la manière dont ils doivent traiter les migrants illégaux qui arrivent en provenance du territoire de certains États. Ils doivent être tenus responsables dans une certaine mesure. Et eux, ils veulent construire leur sécurité aux dépens de la sécurité des autres, ce qui est fondamentalement contraire au droit international qui s'est développé au moins dans notre région d'Europe de l'Est et qui a fonctionné avec succès pendant assez longtemps, jusqu'en 2020. Si l'on suit la dynamique des reportages télévisés au cours des deux dernières années et demie, on pourra faire ses propres analyses. Les gens comprennent parfaitement qui fait tapis ici, qui prend une position sans principe et complètement irraisonnée, je veux dire les dirigeants de la Lituanie, Lettonie et des autres pays baltes, et qui subviennent aux besoins de leurs familles. De nombreux Biélorusses partent travailler en Lituanie depuis les villes et villages frontaliers, mais vivent ici. Il existe également des situations opposées. De nombreuses entreprises lituaniennes et biélorusses opèrent dans de différents domaines, social, technique, architecture et construction. Et maintenant, les gens sont indignés par les actions de la Commission européenne qui manipule aujourd'hui le gouvernement lituanien et en même temps, le gouvernement lituanien essaie de se montrer comme une entité indépendante. Mais ce n'est pas le cas et la situation va continuer à s'aggraver. Malheureusement, les citoyens ordinaires souffriront le plus.
Последними в кавычках, да, людьми, да, или виновными, опять же, в кавычках останутся обычные рядовые граждане.
Des relations internationales et la sécurité, la géopolitique et des intérêts nationaux. Notre vision des problèmes actuels dans le projet Bélarus dans la communauté mondiale.
En mars, des voitures immatriculées en Russie ont commencé à être confisquées en Lituanie. Ainsi, la première voiture immatriculée en Russie a été confisquée par les douanes lituaniennes. La voiture était conduite par un citoyen moldave. Il voulait aller au Bélarus. Il est précisé que la voiture confisquée était une Audi Q7. Le conducteur affirmait qu'il ne savait rien des restrictions imposées. Entre-temps, nous maintenons un régime d'entrée sans visa avec la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Depuis le début de cette année, plus de 47 000 résidents des pays de l'Union européenne ont profité de cette opportunité. Le doyen de la faculté de journalisme de l'Université d'État du Bélarus, le politologue Alexei Belaïev, a expliqué ce qui est derrière l'introduction d'un régime sans visa. Le Bélarus part du fait que nous sommes un pays ouvert. Nous ne sommes pas nous-mêmes les initiateurs de conflits ou de différends ici. Nous créons spécialement des opportunités pour tous ceux qui veulent venir chez nous, voir par eux-mêmes, voir de leurs propres yeux quel genre de vie nous avons ici, afin que les propagandistes occidentaux ne puissent pas transmettre de faux propos aux gens. C'est pourquoi le Bélarus ouvre ses portes. Nous sommes prêts à interagir, nous sommes prêts à voir des touristes, nous sommes prêts à voir des gens intéressés à la fois par notre histoire et notre culture. Nous sommes prêts à voir simplement des gens qui s'arrêtent au magasin biélorusse le plus proche pour acheter de bons produits savoureux. S'il vous plaît, nous sommes prêts à vous gâter. Ceux qui viennent voir le niveau réel de développement économique peuvent voir les prix et les comparer aux leurs. Pour le gouvernement lituanien, une telle ouverture du Bélarus est comme une épine dans le pied et il essaie par tous les moyens de la contrecarrer. Ils ne peuvent pas persuader leurs citoyens par des méthodes de propagande de ne pas se rendre au Bélarus. Malgré les affiches, de nombreuses publications et des histoires d'horreur, les gens ont envie de voyager. La seule façon d'arrêter ce flux est donc de limiter physiquement la possibilité de traverser la frontière. À cet égard, ils créent de nouvelles barrières et ferment les points de contrôle. En théorie, si un pays est guidé par ses propres intérêts, il devrait se réjouir d'un flux de passagers et de marchandises aussi important et se réjouir qu'il existe des opportunités pour de tels échanges. Nous observons seulement la tendance inverse, une augmentation du coût des visas Schengen et une complication de leur délivrance. Un point de vue absolument opposé, un comportement absolument opposé, qui tient au fait que l'Europe a apparemment peur de la concurrence. Apparemment, ils craignent que l'ouverture des frontières ne permette de découvrir la vérité. D'un côté, ils ne permettent pas à leurs citoyens de venir chez nous afin qu'ils ne voient pas à quel point le niveau de vie au Bélarus est bien meilleur que ce que l'on prétend. De l'autre côté, ils ne laissent pas entrer nos citoyens pour qu'ils ne voient pas quel est le véritable niveau de vie en Europe. J'ai été à Vilnius. Il y a des rues principales là-bas, nettoyées et polies, mais vous tournez littéralement le coin et il y a du plâtre qui s'écaille, des odeurs désagréables, des maisons sans fenêtres, et tout cela en plein centre de Vilnius. Je ne parle même pas de la périphérie, la gare et les maisons qui ont été construites à l'époque soviétique et qui n'ont ensuite subi aucune modernisation. Bien entendu, les Lituaniens ont quelque chose à cacher, et c'est pourquoi ils tentent de limiter l'arrivée de nos citoyens, de ceux qui pourraient les regarder d'un œil impartial et leur dire la vérité.
Пытаются ограничить приезд наших граждан, те, кто мог бы непредвзятым взглядом посмотреть, и кто мог бы сказать им правду.
Chers auditeurs, vous avez écouté le projet Bélarus dans la communauté mondiale. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure.
Des relations internationales et la sécurité, la géopolitique et des intérêts nationaux. Notre vision des problèmes actuels dans le projet Bélarus dans la communauté mondiale.
Minsk est la capitale du Bélarus. Les habitants du pays et les touristes aiment ces villes pour ses larges avenues et ses ruelles tranquilles, ses parcs verdoyants et l'hospitalité des habitants. Les visiteurs de la ville affirment que Minsk est une des plus vertes villes en Europe.
et c'est une caractéristique juste. Bien sûr, les vicissitudes historiques ont laissé leurs traces dans son apparence. Le nombre de curiosités historiques n'ont pas évité la destruction, et d'autres villes européennes peuvent offrir aux voyageurs beaucoup plus d'antiquités. Mais les esprits curieux peuvent certainement apprécier l'originalité extraordinaire de Minsk. C'est peut-être la seule ville au monde ayant un millénaire d'histoire qui a été complètement détruite pendant la guerre et restaurée après la guerre grâce à l'inspiration des architectes et aux efforts des habitants. Le bruit et l'agitation ne sont pas propres à Minsk. La ville est tranquille et sans précipitation, mais elle reste toujours fraîche et romantique. Elle a son ambiance particulière remarquée par tous qui viennent ici. Du calme, de la patience et de la gentillesse sont des traits caractéristiques de ses habitants. Minsk est une ville où personne ne se sent en étranger. Bienvenue au Bélarus.
Femmes éminentes du Bélarus. Ufrosine de Polotsk, protectrice céleste du Bélarus, sainte canonisée, civilisatrice et mécène, a enrichi le trésor de la science et de la culture nationale et mondiale par ses connaissances, ses pensées et son talent. Son nom, qui signifie joie, est associé à l'ouverture des premières institutions éducatives et bibliothèques, à la création d'une école d'architecture et de peinture et au développement de l'artisanat. La SESE et le travail éducatif du Frosigne de Polotsk ont contribué grandement à l'amélioration du niveau de la vie publique et étatique des terres biélorusses. Les informations concernant la vie de la sainte sont peu nombreuses. Elle est probablement née près de 1101 à Polotsk. La vénérable, qui avant sa tonsure portait le nom de Pretslava, est née dans une famille princière. Dès son plus jeune âge, la jeune fille a acquis le goût de la lecture. Ses livres préférés étaient le Psautier et les Saintes Écritures. Pretslava était intelligente et belle. Néanmoins, elle n'a pas eu peur de renoncer à un avenir brillant et de consacrer sa vie au service de Dieu. Ses parents préparaient leur fille à l'union dynastique. Cependant, la future sainte a pris la ferme décision de s'engager sur la voie monastique alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle s'est fait secrètement la tonsure comme moine et au début, avec la permission de l'évêque de Polotsk, elle vivait dans une tente près de l'église de Sainte-Sophie. Elle a fondé ensuite un couvent près de la ville et a persuadé ses proches de s'y faire la tonsure comme moine. Ufrosigne de Polotsk menait une vie ascétique, lisait et priait beaucoup. Alors qu'elle vivait au couvent, elle a commencé à copier des livres. À l'époque, seuls les hommes le faisaient. Plus tard, elle a commencé à écrire ses pensées et à créer des récits entiers. Sainte Ufrosigne écrivait essentiellement des prières et faisait également des traductions du grec et du latin car elle maîtrisait parfaitement ces langues. Puisque la majeure partie de la journée, elle consacrait aux prières et aux services, Ufrosigne écrivait ses livres pendant le temps libre et donnait tous les bénéfices de la vente aux défavorisés. Dans tout Polotsk, elle était connue comme conseillère et ne refusait jamais d'aider ceux qui étaient dans le besoin. En 1161, avec sa bénédiction et probablement son croquis, le maître joaillier Lazar Bokcha a fabriqué la croix d'autel, considérée comme une œuvre d'art exceptionnelle. Selon le projet d'Ufrosigne, la croix devait éternellement vitaliser les âmes des habitants de Polotsk et de tous les habitants de sa terre natale. Malheureusement, la croix a disparu sans laisser une trace pendant la Seconde Guerre mondiale et reste introuvable. Dans sa vieillesse, la vénérable a réalisé son vieux rêve et s'est rendu en pèlerinage à Jérusalem pour vénérer le Saint-Sépulcre. En 1173, elle s'y est décédée. Chaque année, le 5 juin, on commémore la sainte Euphrosyne de Polotsk.
Music Box. Thank you.
这里是白俄罗斯广播电台，这是值得信赖的关于白俄罗斯政治、经济、社会和文化生活的信息源泉。我是中国汉办派往白俄罗斯国立大学的汉语教师李佐，现在我受托于白俄罗斯广播电台在此播音。我们的记者和编译团队为您准备了可以持续收听的关于白俄罗斯国家和世界重要事件的全部报道，请保持收听白俄罗斯广播电台的节目。
亲爱的听众朋友们，大家好，您正在收听的是白俄罗斯国际广播电台中文频道，现在在演播间为您播报的是您的朋友王哲。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。他指出，应哈萨克斯坦方面邀请，白俄罗斯以观察员国身份出席在阿斯塔纳举行的上合组织成员国安全会议秘书第19次会议。白俄罗斯安全委员会国务秘书说，我希望这是白俄罗斯作为观察员国参加的最后一次会议。7月份的国家元首峰会上，希望能够最终完成我国加入上合组织的程序。白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。不久前，我与上合组织秘书长通过电话，他向我证实，所有国家都已签署了相关议定文件。接下来就是在国家元首峰会时正式接受我国加入上合组织。亚历山大·沃尔夫维奇强调，峰会将于7月4日举行，也是在白俄罗斯庆祝从纳粹侵略者手中解放80周年之后举行，这是非常有意义的。他表示，我们将成为第10个加入上合组织的国家，而且按字母顺序排列，白俄罗斯将排在第一位，这也很有象征意义。事实上，白俄罗斯拥护会议讨论的所有方面，并支持上合组织提出的所有倡议。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
沃尔夫维奇，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。亚历山大·沃尔夫维奇说道，西方和东方之间又出现了一场争斗，这可能是一个哲学命题，生活在螺旋式前进。一方面，美国及其支持下的西方集体由于与美国的关系在经济方面失去很多，并在与上合组织成员国中国、俄罗斯联邦、印度和其他国家的交往中受到损失。白俄罗斯正好是东方和西方的桥梁，如果西方能够醒悟，按照正确的道路，通过对话、建设性互动与合作的方式，西方可能会受益。他指出，西方的行为损害了白俄罗斯的经济利益，对白俄罗斯实施制裁并进行经济打击。亚历山大·沃尔夫维奇还谈到了白俄罗斯加入上合组织后将获得的好处，他强调说，对白俄罗斯来说，俄罗斯联邦和中国是战略伙伴，已经建立了良好的双边关系，但是当我们在上合组织的平台上解决更大范围的问题时，这将有助于白俄罗斯的经济发展，改善白俄罗斯居民的社会保障，这是最重要的。现在白俄罗斯是维护和平与安全的典范，这背后有总统、政府和公务员们的巨大付出。我国加入上合组织后，将进一步加强安全感，扩大国际合作框架和经济框架互动，改善我国福祉。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯文学史博物馆与华东师范大学签署合作协议。据文化机构报道，白俄罗斯国家文学史博物馆与华东师范大学签署了合作协议。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长谢尔盖·乌斯克说， 与友好国家的合作扩大了白俄罗斯文学在中国的交流前景。中国长期以来对我们的文学都非常喜欢，许多经典作品都被翻译。现在白俄罗斯现代作家的作品也被翻译成汉语。谢尔盖·乌斯克解释说，未来我们在签署协议之前商定的联合项目，包括各种展览，都将得到落实。同时，合作协议的签署扩大了与中国白俄罗斯文化和文学研究中心的合作。据他介绍，今年秋天计划在华东师范大学举办一个展览项目《前线作家》，这对中国来说非常有趣。谢尔盖·乌斯克表示，我们将进一步合作，将博物馆的解说文本翻译成中文，以便将来可以将中文纳入我们的语音指南中。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长总结说，我们将在不久后落实这些项目。我相信在更深入地了解这所大学之后，我们将能够开展其他有意义的项目。在这些项目中，我们将讨论白俄罗斯文学的独特性和深刻性，相信中国读者会喜欢我们的经典作品。这是我们在精神上与友好国家和人民积极互动的第一步。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
亲爱的听众朋友们，这里是白俄罗斯国际广播电台中文频道，感谢您的收听，我们下周再见。
这里是白俄罗斯您的朋友广播栏目。
海外的白俄罗斯人，南美山脉的多梅伊科科迪勒拉山，智利圣地亚哥大学多梅伊科矿石，多梅伊科紫罗兰，多梅伊科动物化石，多梅伊科港，是什么使他们联系在一起的呢？原来这些都是以一位科学家的名字命名的，他就是19世纪来自白俄罗斯的杰出科学家伊格纳济多梅伊科。他出生在白俄罗斯，并在这片土地上成长，接受教育，白俄罗斯一直都在他的心中。在遥远的南美大陆智利，我们的同胞得到了最高的礼遇。伊格纳济多梅伊科在这里发现了丰富的矿藏，并组织开采这些矿藏。他建立了图书馆、实验室和教育机构，并用不同的语言撰写了100多篇科学论文，多年来一直是圣地亚哥大学的校长。智利人民感激他，称之为伟大的启蒙者，并宣布他为智利的民族英雄。今天波兰、立陶宛以及伊格纳济多梅伊科的故乡白俄罗斯都纪念这位著名的科学家。2002年被联合国教科文组织宣布为伊格纳济多梅伊科年。
涅斯维日，涅斯维日，现代城市涅斯维日，距离明斯克100公里处的一个白俄罗斯小城市，以前它被称为第二个小巴黎。涅斯维日在历史上第一次提及可以追溯到13世纪，但是却是拉基维日公爵为这座城市带来的真正的荣耀和繁荣。19世纪最著名、最神秘的白俄罗斯贵族选择这里作为他们的住所，一直到20世纪中叶都被称为是涅斯维日。在拉基维日的带领下，许多寺庙、大教堂、修道院都在这里修建。他们中大部分都一直保留到现在。16世纪，第一本白俄罗斯语书籍在当地印刷厂进行印刷出版。这座城市最雄伟的建筑是涅斯维日城堡和宫殿，它一直保留到现在。拉基维尔拥有藏书丰富的图书馆和大量的艺术收藏品。这里也曾是欧洲最大的宫廷剧院。涅斯维日的另一颗珍宝是保管上帝身体的教堂，这是白俄罗斯第一座巴洛克式教堂， 它保留着拉基维日的坟墓，是东欧境内唯一一个家族墓地。如今涅茨维日是白俄罗斯文化和旅游中心之一，每年将会举办民俗节日和白俄罗斯文化周。2005年，涅茨维日建筑和文化综合体被列入联合国教科文组织世界遗产名录。我们邀请您来欣赏白俄罗斯的历史宝藏。欢迎来到白俄罗斯。
我们邀请您来白俄罗斯。明斯克州为客人提供了许多有趣的地方，这还不包括白俄罗斯的首都。您在明斯克州可以参观有着近1000年历史的扎斯拉夫历史，这座城市保存了白俄罗斯最古老的城堡防御体系。在扎斯拉夫历史的博物馆文物保护区，可以了解白俄罗斯祖先的传统和他们的日常生活。为纪念伟大的卫国战争中著名的哈丁惨案而建成的纪念馆也位于明斯克州，该纪念馆建在哈丁村遗址上。在那里，法西斯烧毁了村庄，屠杀了村民。哈丁纪念馆是所有战争受害者的纪念馆。每3个白俄罗斯人中就有1人在这场战争中丧生。在这个地方，没有人会无动于衷。舒适的涅斯维日市曾经是实力雄厚的拉基维尔家族的主要住所，许多保存至今的历史和建筑遗迹记录了拉基维尔家族过去的强大，其中拉基维尔宫被列入联合国教科文组织世界遗产名录。直到20世纪，在公园耶稣会教堂里还埋葬着这个著名家族的成员。从明斯克出发，行驶40公里，您会来到一个非常特别的地方，这就是都都基特民族物质文化博物馆。其实很难称它为博物馆，因为所有的展品都是活生生的实物。这里完美地重现了白俄罗斯乡村的传统生活，在这里您可以感受到一切，自己烤乡村面包，自己做陶器，尝试当个铁匠或者磨坊主。在都都基特民族物质文化博物馆，您会有新发现，这里将给您留下美好的回忆。欢迎来到白俄罗斯。
白俄音乐盒。
Отбросив страх и сомнения, собрав все силы в кулак, из Беларуси вы первая, и по-другому никак. У звезд далекое плаванье, за горизонт в космотур. Вот она точка отправная, космодром Байконур. Выше птиц, выше облаков. Запомним мы без слов. Нам расскажите, какая же она в иллюминаторе белорусская земля.
Мы готовы к полету, выполним все на 100%, даже больше. Я уверена, потому что с таким экипажем только в космос.
Всё ближе к сияющим звёздам. Союз МС-25. Выше птиц, выше облаков. И полёт запомним мы без.
успех. Все ближе к звездам, ближе к мечте. Вера в завтра и космонавтам на орбите будет, как на Земле.
Выше птиц, выше облаков, и в полет заполним мы без слов. Нам
починається історія кожного з нас, з маленької родини, яка є спешотою, вигадувала нас, де вузькими стежками упевнена, ми будували шлях, куди завжди ми вернемся, за силами, що нам дає земля. Токи життя враз час спадщини, я бережливо нёс от деда, от прадеда, от матчини. Створався гэты лёд, де вузькими стежками упевнена побудовали шлях. Прихожую і незалежную ми зберегли і ввысь поднялися.
Перед кроч